Quand ils escortent le cercueil dans l'allée centrale, les gens quittent les bancs dans l'ordre pour le suivre au fur et à mesure, si bien que lorsque Mary Pat sort de l'église, le cercueil est déjà dans le corbillard et Dreamy et Reginald sont dans l'une des limousines derrière. Mary Pat se rend compte que son projet de présenter brièvement ses condoléances à Dreamy avant de se dépêcher de partir n'était pas réaliste. Elle aperçoit Bobby Coyne en conversation avec son équipier qui a garé n'importe comment une voiture banalisée près du trottoir et qui lui dit quelque chose avec insistance. Bobby hoche la tête et, à un moment, il regarde autour de lui, peut-être à sa recherche. Mais elle utilise la foule à son avantage et il s'éloigne rapidement avec son équipier, puis ils partent dans la voiture banalisée. Au cimetière, Reginald, Dreamy, leur famille et leurs amis proches, ainsi que les militants politiques, se tiennent au premier rang près du cercueil. Mary Pat et les autres blancs sont tout à l'arrière, près de la route. Les Williamson sont propriétaires de leur maison à Mattapan, une petite construction de style Dutch colonial dans Itasca Street. C'est tout à fait le genre de maison de blancs dans laquelle Mary Pat aspire à vivre. Bien entretenue, une pelouse tondue, un coup de peinture récent sur les encadrements. Les parquets sont en chêne blond luisant. Tout l'intérieur sent le savon pour bois. Un vestibule décoré de photographies d'Augustus et de ses sœurs, ainsi que de personnes aux cheveux blancs, les grands-parents, suppose Mary Pat. Le salon, plus loin, sur la droite, auquel on accède par une entrée cintrée. Sur la gauche, une petite salle à manger avec des vitraux aux fenêtres et qui donne sur la cuisine. Au-delà de la cuisine, une terrasse en bois brun qui surplombe un petit jardin. C'est sur cette terrasse et dans ce jardin que la plupart des proches se sont rassemblés. Une fois dans la cuisine, Mary Pat cherche Dreamy du regard. Elle veut simplement lui présenter ses condoléances et filer en vitesse. Mais la première personne qu'elle rencontre n'est pas Dreamy, c'est Reginald.
« Je veux juste dire... »
commence-t-elle.
« Putain ! Vous voulez me dire quoi, vous ? »
lance-t-il. Elle le dévisage pour s'assurer que c'est bien le même Reginald qu'elle a rencontré plusieurs fois auparavant. Elle n'en est pas tout à fait certaine. Jusqu'à son éloge funèbre, elle ne l'avait jamais entendu prononcer une grossièreté, quelle qu'elle soit. Elle présumait qu'il était du genre à ne pas en voir l'utilité.
« Espèce de garce ! Je vous ai demandé ce que vous vouliez me dire !»
Elle fixe le regard sur sa cravate. Elle l'avait remarqué quand il était passé près de son banc en sortant de l'église derrière le cercueil de son fils. Elle est bleu nuit, avec des croix bleu clair. Pas de doute, c'est bien lui. « Il m'a vraiment traité de garce.
Je voulais vous présenter mes condoléances. »
« Oh » dit-il gentiment. « Oh, Dieu merci. Ça, c'est pas rien. »
Il touche le bras de Mary Pat avec sa grande main noire. Il le serre légèrement.
« Qu'est-ce que vous pensiez que je voulais ? »
demande-t-elle. Il lui serre le bras un peu plus fort.
« Je pensais que vous vouliez m'expliquer pourquoi votre abruti de fille raciste a tué le garçon intelligent et au corps pur qu'était mon fils. »«
Vous pouvez lâcher mon bras ?»
Il serre encore plus fort.
« Est-ce que je tiens votre bras ?»«
Oui. »«
Vous êtes sûr ?»«
Oui. »«
Vous êtes sûr que c'est pas juste un hasard ?»« Comme disons... » Vous êtes venu mettre votre bras dans ma main et je n'ai pas d'autre choix que serrer ce que vous avez mis dans ma main. Ça serait pas une possibilité ?
Non.
Non ?
Il la regarde en inclinant la tête sur le côté.
Eh ben moi, je dis si. Je dis, Madame Fennessy, que tout ce qui me traverse l'esprit fait autorité dans cette putain de maison. Vous voulez déposer plainte ? Faites-le auprès de moi, ici même, sur le champ. Vous croyez pas pendant que je vous regarde dans les yeux, que je suis capable de reconnaître une vraie garce coriace quand j'en vois une. Je sais que vous êtes une vraie garce coriace. Je sais que vous pouvez casser la gueule à bien des hommes, mais je ne suis pas ce genre d'homme. Et vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez vous permettre d'essayer. Parce que si jamais, là, maintenant, putain, je devais écrabouiller la gorge de la mère d'un des démons qui ont tué mon enfant. Une femme qui est entrée sans y être invitée dans ma maison le jour de l'enterrement de mon fils unique. Si je devais faire ça, Madame Mary Pat Fennessy, je ne m'en tirerais peut-être pas sans dommage. Mais vous avoir fait la peau me vaudrait suffisamment de considération en prison pour que je vive comme un foutu roi le restant de mes jours.
Il y a bien pire que la douleur causée par les doigts qui lui agrippent le bras comme 5 pinces-becs de perroquet. C'est la haine qu'elle voit dans les yeux de cet homme. Elle est plutôt experte en matière de haine. Elle a vécu dans son voisinage toute son existence. Et la haine qu'il a pour elle est tout simplement insondable.
Reginald !
Il se retourne et voit Dreamy entrer dans la cuisine.
Lâche-la, immédiatement !
Mary Pat se souviendra toujours de ces quelques secondes comme les plus dangereuses de sa vie. Elle sait que Reginald va choisir une des deux voies qui s'offrent à lui. Écouter sa femme ou faire quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement abrupt. Mary Pat est certaine à cet instant que si cet homme décide de la tuer, il ne la ratera pas. Il lui lâche le bras.
« Vire-la de chez moi !» dit-il.
Et passant à côté de sa femme, il regagne la terrasse. Quelques proches sont réunis devant la maison. Aussi, Dreamy accompagne Mary Pat jusqu'au bout de la rue. Elle s'arrête près d'une boîte aux lettres, dont la peinture bleue, sous l'effet des intempéries, est toute décolorée et écaillée.
« Je suis désolée, » commence Dreamy.
« Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. » Il est en colère. Il ne savait pas ce qu'il disait.
Dreamy plisse les yeux.
« Je ne m'excuse pas au sujet de Reginald. Je l'ai empêché de vous blesser pour que mes filles aient un père à la maison. Et non pas dans une prison de merde. »
Mary Pat ne peut s'empêcher de penser. Dreamy aussi dit des gros mots.
« J'exprimais mes regrets concernant la perte de votre fille, » répond Dreamy. « Quels que soient mes sentiments à propos de votre fille ou de vous-même, Madame Fennessy, je ne pense pas qu'une mère mérite de perdre un enfant. Et deux encore moins. Moi aussi, je suis désolée concernant la perte de votre fils. »
Parvient à répondre Mary Pat.
« Taisez-vous !» Dreamy lève une main. « Ne parlez pas de mon fils ! Il est mort à cause de vous. »
Oh là, se dit Mary Pat. Pas si vite. Merde alors. J'ai pas tué votre fils, dit-elle.
Ah vraiment ? Réplique Dreamy. Vous avez élevé une enfant qui pensait que haïr des gens parce que Dieu leur a donné une couleur de peau différente était quelque chose de normal. Vous avez autorisé cette haine. Vous l'avez probablement engendrée. Et votre gamine et ses amis racistes, qui ont tous été élevés par des parents racistes tels que vous, ont été lâchés dans le monde pareil à des putains de grenades bourrées de haine et de stupidité. Et vous pouvez aller vous faire foutre, Mary Pat, si vous vous imaginez une seconde que je suis d'accord avec ça, ou que je pardonne. Je ne pardonne pas. Alors retournez dans votre quartier et restez-y avec ces monstres qui sont vos amis et excitez-vous tous bien comme il faut pour nous empêcher d'aller dans vos précieuses écoles. Mais écoutez-moi, espèce de garce. Nous allons venir, que ça vous plaise ou non. Et nous allons continuer à venir jusqu'à ce que vous abandonniez la partie. Et ça ne sera pas l'inverse. Et en attendant ce moment-là, « Foutez le camp de mon quartier !»
Et voilà, elle est partie. Méripath se tient près de la boîte aux lettres et elle est mortifiée de s'apercevoir qu'elle pleure. De vraies larmes, toutes chaudes, ruissellent sur ses joues, tandis qu'elle regarde Calliope Williamson remonter la rue et disparaître dans sa jolie petite maison bien entretenue.